Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à l'émission Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste. Dans cette série, je vous propose de découvrir avec moi des récits bibliques qui sont à la fois surprenants, choquants, mais aussi fascinants et intéressants. Connaissez-vous Tamar? Non? Ben, c'est un personnage peu connu de l'Ancien Testament, je vous l'accorde, mais pourtant est au centre d'une histoire abracadabrante qui vaut certainement la peine de lire. Je vous le dis en avance, il y aura toutes sortes d'éléments assez particuliers, dont un coït interrompu, des exécutions, de la prostitution, un inceste. Mais vous allez voir, bon, c'est pas si pire que ça. Malgré le contenu explicite, il y a certainement matière à réflexion. Place maintenant au courrier des auditeurs. Nous commençons toujours par un temps pour vos réactions, commentaires, vos questions. Nous avons reçu un message de Christian qui se demande une question fondamentale. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Il nous pose la question « La Bible dit-elle vrai? » Il écrit « J'ai bien apprécié votre dernière émission sur Lot et ses deux filles. Pourtant, je me demande, est-ce que c'est vraiment arrivé? La Bible dit-elle vrai? Est-ce qu'on peut s'y fier? » Bien. Merci beaucoup, Christian, pour cette question que je pense fondamentale, essentielle. Et pour y répondre, je pense qu'on doit se poser une autre question. Qu'est-ce que la vérité? Grande question philosophique, mais moi, je pense qu'on devrait faire une distinction entre deux choses. D'une part, l'exactitude des faits historiques ou l'historicité, qu'est-ce qui est arrivé historiquement, et d'autre part, la vérité qui est plus globalement la qualité de ce qui est vrai, qui va au-delà du simple fait historique. Bon, côté historique, les sciences historiques nous ont appris que la vérité en histoire relève de l'utopie. Peu importe l'événement historique étudié, bon, on pourra prendre l'exemple tout à l'heure de la conquête dans la Nouvelle-France au Québec, peu importe l'événement historique étudié, il n'y a pas une vérité unique. Il y a une multitude de points de vue pour interpréter un événement. Bon, c'est sûr qu'il existe une méthodologie pour se rapprocher le plus possible de ce qui s'est réellement passé. Mais ultimement, on peut qu'offrir des interprétations plus ou moins justes selon les différents points de vue. Par exemple, avec l'histoire de la conquête là, au Québec, bien, c'est décrit de façon très, très différente si on prend un récit d'un francophone ou d'un anglophone. Bien, c'est un peu la même chose pour la Bible. Les recherches historico-critiques permettent de mieux comprendre les cultures qui ont donné naissance aux livres saints. Mais elles nous ont appris qu'il faut toujours garder une certaine attention puis il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. À l'occasion, elle affirme des événements qui sont manifestement pas historiques. Par exemple, là, on lit le livre de la Genèse depuis quelques émissions. Dans le livre de la Genèse, il y a Mathusalem, un homme qui vit plus de 900 ans. C'est difficile d'être historique avec ça. Ou un serpent qui parle, une race de géants, des villes qui sont détruites par le feu du ciel, bon, etc. Il y a toutes sortes d'événements qu'on se dit, ça doit pas être historique, ça. Il ne faut pas projeter sur la Bible des objectifs qu'elle ne se donne pas. La plupart des événements bon, que je viens de dire, ils se retrouvent dans des textes qui appartiennent pas à des genres littéraires qui se veulent spécifiquement historiques. Quand on lit un poème, un conte, un texte apocalyptique ou un récit des origines, bien, on ne va pas retrouver les mêmes éléments que si on lisait le journal de demain. Pour les croyants, la Bible reste vraie, même si certains éléments ne sont pas nécessairement prouvés historiquement. Parfois, des récits bibliques bien, vont employer des images qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Mais pourtant, ces images-là nous parlent de quelque chose qui est vrai. Je vais vous prendre un exemple. Là. Dans le livre de la Genèse, au début, j'ai mentionné le serpent bon, qui va parler et inviter Ève à manger le fruit défendu. C'est clair que ce n'est pas historique, ça. Un serpent qui parle, c'est rare. Cependant, tout le monde peut y reconnaître la petite voix à l'intérieur qui parfois nous pousse à contourner les interdits. Il y a une vérité là-dedans, qui est transmise par une image qui n'a pas nécessairement de prétention historique. Les premiers récits qu'on analyse proviennent du livre de la Genèse. Ils sont écrits dans un genre littéraire qu'on va appeler récit mythique ou récit des origines. Dans le langage populaire, souvent on va associer le mythe à quelque chose qui est faux. Mais dans les civilisations anciennes, le mythe, C'est un mode d'expression qui est utilisé pour transmettre une compréhension du monde, pour transmettre une vérité plus globale. C'est une histoire, bon, qui est exemplaire, qui englobe l'humanité, le monde, Dieu, un récit qui est placé aux origines, à quelque part en dehors du temps chronologique. C'est donc par essence non historique. Il ne cherche pas à décrire avec précision qu'est-ce qui s'est passé. La valeur du récit réside dans sa façon dont il révèle la place de l'humain dans le monde par rapport à Dieu. On peut dire que ces récits restent vrais, surtout si on est croyant. Pour moi, ces récits sont vrais, mais leur vérité déborde les simples faits historiques. Cela dit, la question que Christian posait était par rapport à Lot et ses filles. Est-ce que ça s'est déroulé comme ça? Bon, on a vu la dernière émission que ce texte-là veut décrire l'origine du peuple moabite et ammonite. Mais il fait du point de vue des Juifs, du point de vue du peuple hébreu. Au niveau historique, on n'en sait rien de leur origine réelle. Par contre, ce récit, vous l'accordez, reste quand même très intéressant à lire, ne serait-ce que pour nous surprendre. Merci beaucoup, Christian, pour cette question sur la véracité de la Bible. J'invite tous les auditeurs de ne pas hésiter de faire comme lui, nous écrire à auditoire@radiovm.com pour nous faire parvenir vos questions, vos commentaires, pour qu'on puisse rendre l'émission un peu plus interactive. Ceci dit, c'est le temps de savourer notre récit insolite. L'histoire de Tamar suit dans quelques instants. Voici un autre récit du livre de la Genèse. Ces acteurs sont des personnages importants parce que vous allez voir plus tard, si on continue la lecture de la Bible, on découvre qu'ils sont les ancêtres du roi David et même les ancêtres de Jésus. Le premier personnage se nomme Judas. Il est un des 12 fils de Jacob et il choisit de se marier avec une Cananéenne. Judas a 3 fils, Er, Onan et Shéla. Ils sont en âge de se marier. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Écoutons leur histoire en Genèse au chapitre 38, des versets 7 à 26.
Pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur qui le fit mourir. Judas dit alors à Onan, « Va vers la femme de ton frère, agis envers elle comme le proche parent du mort et suscite une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que la descendance ne serait pas sienne. Quand il allait vers la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir, lui aussi. Judas dit alors à Tamar sa bru, « Reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Quand il fut consolé, Judas monta à Timna avec son ami Ira l'Adoulamite, chez les tondeurs de son troupeau. On informa Tamar en ces termes. « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile, et s'étant rendue méconnaissable, elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla avait grandi, sans qu'elle lui soit donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il obliqua vers elle sur le chemin et dit, « Eh, je viens à toi !» Car il n'avait pas reconnu en elle sa bru. Elle répondit, « Que me donnes-tu pour venir à moi ?»« Je vais t'envoyer un chevreau du troupeau, » dit-il. Elle reprit, « D'accord, si tu me donnes un gage jusqu'à cet envoi. »« Quel gage te donnerai-je » dit-il. « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » répondit-elle. Il les lui donna, vint à elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en alla, retira son voile et reprit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adoulam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas et interrogea les indigènes. Où est la courtisane qui était sur le chemin à Énaïm? Il n'y a jamais eu là de courtisane, répondirent-ils. Il revint à Judas et lui dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et les indigènes ont même déclaré qu'il n'y avait pas là de courtisane. » Judas reprit, « Elle sait s'y prendre. Ne nous rendons pas ridicules. Moi qui lui ai envoyé un chevreau, et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois après, on informa Judas, « Ta bru, Tamar, s'est prostituée. » Bien plus, la voilà enceinte de sa prostitution. Qu'on la mette dehors et qu'on la brûle, repartit Judas. Tandis qu'on la mettait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ceci appartient que je suis enceinte. » Puis elle dit, « Reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ces cordons, ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle a été plus juste que moi, car de fait, je ne l'avais pas donné à mon fils Shéla, mais il ne la connut plus. »
Quelle histoire abracadabrante! Les éléments insolites y sont nombreux. D'abord, on commence avec la mort d'Er, le premier fils de Judas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais le texte dit assez sèchement que Dieu le fit mourir parce qu'il lui déplut. Je vous avoue que certaines pages de la Bible ne présentent pas Dieu sous son meilleur jour. Il est simplement montré ici comme le maître de la vie et de la mort, capable de décider du début, de la fin, de l'existence d'une personne. Bon, après le décès d'Er, on met en pratique une loi courante chez les peuples de la région, c'est la loi du Lévirat. On retrouve ça, entre autres, c'est décrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 à 10. En gros, cette loi-là veut dire que si quelqu'un meurt et qui est marié avec une femme, ben c'est le frère du défunt qui doit assurer une descendance au défunt, en prenant la veuve comme épouse. Donc, dans notre récit, le deuxième frère, Onan, il a pas le choix. Lui doit se marier avec la femme de son frère qui vient de mourir. Et il semble pas avoir plus de chance que son frère. Le récit décrit comment, lorsqu'il va avoir une relation sexuelle avec Tamar, Onan va se retirer juste à temps pour éjaculer par terre. Le geste semble déplaire à Dieu, qui va le faire mourir lui aussi. Alors, ça fait 2 personnes qui meurent. Après la mort des 2 premiers fils, on comprend le père Judas de ne pas vouloir donner son 3e fils à Tamar. Pourtant, la loi du Lévirat est claire et normalement, il devrait s'appliquer à Shéla, le 3e fils, qui devrait prendre Tamar, lui aussi, comme épouse. Mais ce n'est pas le cas. Il se défile. Tamar finit par obtenir ce qu'elle veut. Elle veut une descendance. Elle veut un mari. Mais elle s'y prend d'une façon assez singulière. Vous avez vu dans le texte qu'elle se fait passer pour une prostituée et elle a une relation sexuelle avec son beau-père. Ce geste est strictement défendu au chapitre 18 du livre du Lévitique où on raconte tout ce qu'il y a de défendu au niveau de l'inceste. Mais cette pratique-là est décrite dans ce texte-là et on dit que c'est une pratique incestueuse à bannir. On peut noter cependant que la conduite de Judas n'est pas à juger selon nos critères du 21e siècle. Dans l'Ancien Testament, une relation sexuelle avec une prostituée n'est pas nécessairement un crime qui est condamnable, pourvu que la femme en question ne soit pas mariée. Il ne s'agit pas d'un adultère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère se définit comme une relation entre une femme mariée et un homme autre que son mari. Alors dans ce texte-là, elle n'est pas mariée. Et Judas pense qu'il a affaire à une femme célibataire. Il n'y a donc pas de problème à ses yeux. Lorsque Judas apprend que sa belle-fille, un peu plus tard, s'est prostituée, il va réagir très sévèrement. C'est parce qu'il ne sait pas que c'était lui son client. Il la juge comme une femme mariée qui a commis l'adultère, même si son mari est décédé. Pour lui, c'est un adultère quand même. Elle était liée de mariage à son fils. Puis la Bible prévoit une sentence d'exécution pour les coupables d'adultère. Vous le savez, normalement, c'est la lapidation. Alors, il y a toutes sortes de textes qui nous parlent de ça, dont le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10. Alors, normalement, c'est la lapidation, sauf que Ici, on semble que c'est par le feu, une méthode assez rare, qu'il dit on va l'exécuter en la brûlant. Bon, les règles juives permettaient au mari de se divorcer de sa femme s'il était soupçonné d'adultère. Mais là, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il va l'exécuter comme ça? Non. Finalement, Tamar s'est montrée plus astucieuse que Judas. Elle lui révèle que le père de son enfant, ou plutôt de ses jumeaux, parce qu'elle va accoucher de jumeaux, auxquels qu'on va appeler Pérès et Séra, ben, le texte précise que elle avait de quoi lui montrer que c'était lui le père. Et plus tard, ben, Judas va dire que Judas ne la connut plus par la suite pour dire que les relations incestueuses ne doivent pas paraître acceptables, celle-ci était occasionnelle, la chose ne se reproduira plus. Bon, comment est-ce qu'on va percevoir Tamar dans le reste de la Bible, elle qui a tout fait pour parvenir à sa fin, entre autres se prostituer avec son beau-père? Bien, étonnamment, la tradition juive va conserver un regard généralement positif sur elle. Par exemple, le livre de Ruth, chapitre 4, verset 12, la cite en exemple pour la prospérité de son fils. Cette bienveillance est sans doute justifiée par le fait que David va faire partie des descendants de Tamar par son fils Pérès. Selon ce récit du livre de Ruth, le sang des descendants de Judas n'est donc pas pur. Il a été mélangé à celui des Cananéens, contrairement aux autres tribus d'Israël. Ça leur donne une destinée différente. Il y a d'autres livres qui parlent de ça. Aussi, le Deutéronome et le livre des Juges aussi nous parlent que Judas semble avoir une destinée différente des autres tribus d'Israël parce qu'elle a du sang cananéen en elle. Après la mort de Salomon, plus tard dans l'histoire d'Israël, le royaume va être divisé en deux. Celui du sud se nommera justement Judas. Il sera constitué des tribus de Judas et de Benjamin. Celui du nord va rassembler les 10 autres tribus. Alors, à quelque part, peut-être que le récit qu'on lit nous parle de l'origine de ce peuple du sud de Juda. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce récit dans la Bible? Ben, c'est une option de dire que, à l'origine, la fonction de ce récit-là était d'expliquer pourquoi la tribu de Juda était si différente des royaumes du nord. On se rappelle que David, Salomon, Jérusalem, tout ça, c'est au sud, c'est la tribu de Juda qui semble avoir une destinée un peu particulière. Il y a une autre opinion aussi qui explique la raison pourquoi on retrouve un récit aussi abracadabrant dans la Bible. Les auteurs rabbiniques classiques, alors des auteurs juifs, vont affirmer que cette histoire parle plutôt de l'origine de la loi du Lévirat, que l'importance de ce texte-là, c'est de nous montrer qu'il faut la suivre coûte que coûte. Pour assurer la descendance d'un homme mort, ben son frère doit épouser la veuve. Alors, le récit qu'on a lu était là pour illustrer cette loi. C'était ça sa fonction. Bon, ceci étant dit, comment actualiser ce texte-là? Est-ce que la loi du Lévirat se pratique encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on a interprété le geste donnant pour interdire certaines pratiques sexuelles? On en parle dans quelques instants. Ici Sébastien Daune. Vous êtes à l'écoute de Récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, on analyse l'histoire de Tamar, une histoire dans laquelle on retrouve un coït interrompu, des exécutions, de la prostitution et un inceste. On va maintenant voir si ce texte assez spécial peut avoir des liens avec notre monde d'aujourd'hui. Bon, premièrement, on a parlé de la loi du Lévirat. Lorsqu'un mari meurt, sa femme est mariée par le frère du défunt. Pensez-vous que cette loi est encore appliquée aujourd'hui? Dans nos pays occidentaux, non. Mais étonnamment, oui, la loi du Lévirat s'applique encore aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Puis cette pratique est contestée par certaines associations de femmes africaines qui la considèrent comme une pratique rétrograde, limitant le droit des femmes. En particulier, j'ai trouvé une association de femmes juristes du Bénin œuvrant pour la protection des femmes béninoises qui ont fait tout un site Internet sur ce sujet-là. Et ils disent que la loi du Lévirat, une des choses qu'il conteste, c'est qu'elle maintient la femme comme si elle faisait partie de l'héritage de l'homme, comme si c'était un bien. Et pour elle, c'est complètement rétrograde, cette loi-là. D'autres groupes, par contre, c'est pas clair, hein? D'autres groupes vont remarquer que la loi du Lévirat est la seule mesure de protection sociale dont bénéficient les veuves de ce pays-là. Sans ça, ils n'auraient pas de mari pour s'occuper d'eux. Bon, comme je connais peu cette réalité, j'ai jamais été en Afrique, et qu'en Occident, on ne se sert pas de cette loi-là, je ne vais pas commenter davantage puisque je sais encore peu d'informations sur le sujet. Mais maintenant que vous avez la puce à l'oreille, vous avez tout le loisir d'aller regarder par vous-même et vous faire une tête sur la question. Par contre, en Occident, il y a un geste qui a rapport avec notre texte qui a fait couler beaucoup d'encre, on en a parlé beaucoup, puis c'est très fascinant, c'est l'interprétation du geste d'Onan. On se rappelle dans l'histoire qu'Onan a interrompu une relation sexuelle pour éjaculer par terre, et ça fait beaucoup de commentaires. Surtout à partir du 18e siècle. Au 18e siècle, on va commencer à parler d'onanisme, et ce mot-là va désigner la masturbation. En français, le mot est utilisé pour la première fois en 1758 dans un ouvrage de Samuel Auguste Tissot. Et vous allez voir, le titre de ce livre-là est assez particulier. « L'onanisme, essai sur les maladies produites par la masturbation ». Cette expression apparaît précisément au moment où la masturbation commence à être considérée comme un fléau social nuisible à la santé. On parle de ça de toutes sortes de façons qu'aujourd'hui, on dirait « Oh, ça n'a pas de sens ». Pourtant, quand on retourne à la Bible, le passage biblique parle nullement de masturbation. C'est pas du tout ça qui est question. Onan a une relation sexuelle avec une femme, puis il éjacule par terre, tout simplement. Quand on regarde le vocabulaire de l'Église catholique, parce que l'Église catholique continue encore de parler d'onanisme, ça désigne toute éjaculation en dehors du corps de la femme. Plusieurs groupes religieux, dont l'Église catholique, continuent d'utiliser ce texte biblique pour justifier l'interdiction de la masturbation, du coït interrompu, et même d'autres sujets comme la contraception. Cette façon d'interpréter le récit biblique et de l'appliquer à la morale sexuelle ne va pas de soi. Le lecteur attentif reste surpris par la sanction de mort qui tombe sur Onan. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça spécial, que Dieu décide qu'Onan décède comme ça suite à cet acte-là, mais moi ça m'a surpris surtout puisque j'ai déjà lu le livre du Lévitique au chapitre 15, verset 16, qui requiert simplement comme peine à ce geste-là un bain rituel pour se purifier. Donc, il y a quand même une grande différence entre se laver et être exécuté. Pourtant, les deux conséquences au même geste se retrouvent dans la Bible, sont dans deux livres différents. Des groupes religieux stricts en matière de contraception semblent donner plus d'importance à l'exécution d'Onan qu'aux lois du Lévitique qui sont moins sévères avec ce genre de geste. Voilà un exemple où on voit que dans la Bible, il y a une divergence d'opinion sur une même question. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas juste dire « bon, la Bible a dit ça ». Il faut l'interpréter, il faut mettre les choses, prendre un côté et l'autre, voir qu'est-ce qui pourrait avoir de l'allure. Alors, sans trancher le débat, je pense que, d'une part, comme chrétiens, nous devons d'abord suivre les paroles de Jésus. Tiens, ça aussi, c'est à prendre en compte. Jésus, qu'est-ce qu'il en dirait, lui, de cette question-là? Personnellement, moi, je pense, ayant lu le Nouveau Testament, qu'il insiste surtout sur l'amour dans une relation avec l'autre. D'ailleurs, le Nouveau Testament rapporte aucune parole de Jésus sur la masturbation et très peu de paroles de Jésus sur la sexualité en général. Ces questions de morale sexuelle ne semblent pas vraiment importantes pour lui. Par contre, elles le sont devenues plus tard pour l'Église. Si on lit les Évangiles, la visée du discours de Jésus, c'est toujours c'est le royaume de Dieu à faire advenir, c'est de ça dont il parle. Il ne parle pas vraiment de moralité sexuelle. Bon. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte que la compréhension de la sexualité a beaucoup changé depuis le 18e siècle, depuis les premiers commentaires de ce texte-là sur l'onanisme. Et la sexualité, la façon dont on la comprend aujourd'hui, a beaucoup changé, surtout depuis les temps bibliques aussi. Elle apparaît plus nécessairement comme quelque chose de négatif. On comprend mieux aujourd'hui son rôle dans le développement de l'être humain. Curieusement, dans la Bible, il y a même un livre complet, le Cantique des Cantiques, j'espère que vous le connaissiez, c'est un recueil de poèmes érotiques. Or, ce livre-là nous montre que dans la Bible, la sexualité n'est pas nécessairement quelque chose de négatif non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une sexualité qui est dans le Cantique des Cantiques, peut-être qu'on fera une émission sur ce sujet, qui est même érotique et sensuelle. C'est pas juste une question de fécondation ou... Puis on n'est même pas sûr, dans ces poèmes-là, ça parle pas de mariage. Alors c'est vraiment... C'est des poèmes érotiques. Alors c'est curieux de lire ça dans la Bible, mais ça fait partie de ça. Ça serait malheureux, moi, je pense, de projeter une morale sexuelle du 18e siècle sur des textes bibliques qui décrivaient une réalité, cette réalité-là de la sexualité d'une façon très, très, très différente. En cette fin d'émission, j'espère que vous avez fait des découvertes avec cette histoire de Tamar qui est moins connue, mais qui vaut certainement la peine de faire un détour. Pour aller plus loin, bon, je vous suggère, comme à l'habitude, d'aller vers le livre que je viens d'écrire qui s'appelle « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » qui est écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Il y a un chapitre sur l'histoire de Tamar. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, je vous la rappelle, c'est auditoire@radiovm.com. La semaine prochaine, on va quitter le livre de la Genèse pour aller vers d'autres livres de la Bible, les livres qui suivent. On va aller dans le livre des Nombres et rencontrer Moïse. Bon, Moïse, on a souvent l'habitude de le présenter comme un grand leader qui a peur de rien. Souvent dans les films, on le voit, là, il mène son peuple, il fonce. Mais là, on va le voir sous un autre jour. Savez-vous que Moïse a déjà eu des idées suicidaires? Ça sera le sujet de l'émission de la semaine prochaine. En terminant, merci à Andréane Laferrière pour sa lecture de la Bible et aussi à Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.